Terre d'Eure-et-Loire, une émission de Radio Grand Ciel. À l'initiative de la Chambre d'agriculture et du Conseil départemental, Terre d'Eure-et-Loire est une association qui fédère les producteurs eure-et-liens et qui garantit l'origine locale des produits. À toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Terre d'Eure-et-Loire dans laquelle je reçois aujourd'hui David Aymar. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous venez nous présenter votre exploitation agricole et le fruit de votre production qui est, et nous y reviendrons bien sûr, entièrement biologique. Les produits que vous commercialisez sous l'appellation La Petite Beauceronne. David Aymar, pour commencer, où se trouve votre ferme ?
Donc notre exploitation qui date de 4 générations se trouve à Trancrainville, à côté de Jeanville-en-Beauce.
Très bien, donc là on est vraiment au cœur de la Beauce eure-et-lienne en tout cas.
Tout à fait.
Très bien. Alors je le disais en préambule, vous vous êtes engagé entièrement dans la filière biologique. Il me semble que ça vous tient particulièrement à cœur. Alors quand avez-vous décidé de devenir une ferme bio et surtout pourquoi ?
Donc la décision a été prise en 2017 et le démarrage dans ce mode de production a démarré dès la récolte 2018 en deux phases. 60% de l'exploitation a été convertie en 2018 et les 40% restants en 2019. Et à présent, depuis la récolte 2022, la totalité des parcelles de l'exploitation sont aujourd'hui labellisées « agriculture biologique ».
Alors, vous savez, les auditeurs ont sans doute entendu parler, on entend ça souvent dans les médias, de transition, de conversion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour l'agriculteur ? Comment avez-vous modifié vos pratiques ? Est-ce que peut-être ça demande presque un réapprentissage ?
Oui, il y a eu toute une phase d'accompagnement sous forme de formation par la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire. Et donc, cette phase-là de transition, en fait, c'est... on arrête certaines cultures. Je vais citer par exemple le colza. Pendant cette phase de transition, le colza a été abandonné. Et par contre, de nouvelles cultures font leur apparition, comme la luzerne, qui nous permet de nourrir notre système de production, notamment en azote pour les cultures qui suivent. Donc c'est une manière différente d'aborder la production agricole. Et avec aujourd'hui plus de cultures qu'auparavant, puisque sur l'exploitation, on a régulièrement 10 à 11 cultures différentes. Et pour ce faire, du coup, la taille des parcelles a été diminuée. Historiquement, j'avais des parcelles d'une moyenne de 10-11 hectares. Mais comme la surface d'exploitation est restée constante, avec plus de cultures, forcément, la taille unitaire de chaque parcelle a diminué. Et on est plutôt sur une surface moyenne aujourd'hui de 7 hectares.
D'accord, il faut aussi apprendre à gérer des rendements différents.
Tout à fait. Il y a nécessairement une baisse de production agricole, puisqu'on n'a plus recours aux engrais minéraux qui sont interdits dans le mode de production biologique. On n'a pas recours non plus à tout un panel de solutions de traitement phytosanitaire pour protéger les plantes. Donc la clé d'entrée dans l'acte de production, c'est déjà faire un bon choix variétal, notamment par rapport aux résistances aux maladies, par exemple.
Alors, il y a aussi la question de la terre de Beauce. Est-ce qu'elle se prête bien à ces cultures biologiques ? Il n'y a pas de frein particulier ?
Donc, sur le secteur sur lequel nous sommes, j'ai tendance à dire que oui, dans la mesure où c'est des terres qui sont quand même... des terres qui se réchauffent très vite au printemps, qui se ressuient également après de la pluie très rapidement et donc qui nous permettent d'intervenir très très vite en termes de désherbage mécanique, qui est notre seul recours par rapport au désherbage. C'est de passer des outils, voire dans certaines cultures de passer manuellement, mais ce qui n'est pas le cas dans toutes les terres d'Eure-et-Loire.
D'accord. Alors, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est le pourquoi. Pourquoi cet engagement vers le bio ?
Donc, l'engagement vers l'agriculture biologique. Donc, auparavant, comme j'étais installé depuis 2012, J'étais dans un mode de production qui se qualifie d'intégré. Donc c'était déjà un mode de production dans lequel je minimisais les interventions phytosanitaires. Également, le recours aux engrais était un peu réduit par rapport à du pur conventionnel. Et en 2017, la filière betterave à sucre s'est intéressée au mode de production biologique. Et donc ça a été un des éléments déclencheurs, puisqu'historiquement l'exploitation produisait des betteraves, une culture qui m'intéressait. Et comme le groupe Cristal Union commençait à s'intéresser à la production biologique de betteraves à sucre pour en faire certes du sucre, mais aussi de l'alcool, du coup ça a levé un dernier verrou vers ce mode de production. Donc qui m'intéresse de part déjà la santé pour l'agriculteur que je suis, avec beaucoup moins de manipulation de produits dangereux, également par rapport aux riverains de mon village, par rapport à l'environnement, au dérèglement climatique. Enfin, il y a plusieurs aspects qui ont fait qu'on a bougé vers ce mode de production-là.
Alors, vous faites partie, bien sûr, de l'association de la marque Terre d'Eure-et-Loir. Comment est-ce que c'est accueilli, cette conversion vers le bio ? Est-ce qu'il y a une bonne cohabitation, une bonne entente entre les agriculteurs qui n'ont pas fait ce choix ?
Disons qu'au sein de la marque Terre d'Eure-et-Loir, on retrouve des producteurs de tout type de production. Donc, vous avez des productions conventionnelles, des productions biologiques. Tous les producteurs sont accueillis par la marque, qui, elle, apporte un gage de sécurité aux consommateurs par rapport à l'origine des produits. Donc, quand un consommateur met dans son panier un produit estampillé Terre d'Eure-et-Loir, il a la garantie, et je trouve que c'est important aujourd'hui et ça donne du sens à notre acte de production, il a la garantie, ce consommateur-là, qui prend un produit qui a été effectivement issu des terres d'Eure-et-Loir.
Alors, on peut dire que votre spécialité première, c'est la farine. C'est un aliment de base que l'on a tous dans nos cuisines, sans savoir parfois qu'il y a plusieurs sortes, donc plusieurs goûts, il y a plusieurs usages également. Et puis, toutes les farines ne se valent pas. Alors, parlez-nous de votre farine, David et Marc. Que produisez-vous à la Petite Bosseronne ?
Donc, à la Petite Bosseronne, suite à la conversion au mode de production biologique, on voulait rentrer dans une démarche de circuit court pour avoir du contact avec le consommateur final. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a démarré en avril 2021 un atelier de meunerie à la ferme, donc dans lequel aujourd'hui on produit plusieurs types de farine de blé, donc de la farine blanche, de la farine bise, de la farine semi-complète, de la farine complète. Et à côté de ça, des espèces, on va dire, secondaires, donc de la farine de petite épeautre, en variété ancienne, de la farine de seigle et également de la farine de sarrasin.
Alors justement, là, le consommateur est peut-être un petit peu perdu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être les grandes différences entre ces farines ?
Donc, toutes ces farines sont faites sur meule de pierre de type astrié. Donc, en un seul passage dans notre moulin, on part du grain et on arrive à la farine et avec une issue pour... on va dire le déchet qu'on appelle le son. Après, les différentes farines, les différentes farines de blé, la farine blanche va pouvoir correspondre à tout type d'usage, donc pour faire un roux en cuisine, pour faire de la béchamel, pour faire de la pâte à choux, des brioches, des fonds de tarte, des crêpes, des gaufres. Donc là, c'est la farine, on va dire, polyvalente, c'est la plus blanche. Et après, dès qu'on va monter dans des types... bise, voire semi-complète ou complète. Là, on va plus aller vers des usages de type panification, même si la farine bise est achetée par une crêperie avec laquelle on travaille pour faire ses crêpes sucrées, quoi.
Et alors la farine, par exemple, de petite épeautre, quel usage on peut en faire en pâtisserie aussi ?
Donc la farine de petite épeautre, on peut s'en servir pour faire des biscuits, on peut s'en servir pour faire du pain, mais également pour couper de la farine de blé. Si dans une recette on retrouve farine de blé, quelqu'un qui va vouloir donner une petite touche d'originalité va pouvoir couper avec un peu de farine de petite épeautre.
Alors, votre deuxième spécialité, parce que vous en avez une deuxième, c'est un classique de la Beauce, la pomme de terre. Alors là encore, on est en agriculture biologique.
Oui, tout à fait, en agriculture biologique. Donc, nos pommes de terre, elles sont tout simplement triées, calibrées et mises en filet de 5 kilos, qu'on distribue, on va dire, quasi exclusivement à la ferme, sachant que c'est une petite partie de la production qui est valorisée en circuit court. La grosse partie va chez un négociant en pommes de terre biologique qui est à Orgères-en-Beauce, donc de proximité.
De proximité, toujours. Alors, vous fabriquez également une étonnante confiture de pommes de terre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et puis aussi, comment vous est venue l'idée de cette recette?
Donc, effectivement, à l'automne 2021, ma femme s'est dit que ce serait bien de faire une production originale à partir d'une production de la ferme. Et donc, l'idée s'est arrêtée sur la confiture de pommes de terre. En se mettant en rapport avec une confiturière artisanale, donc une recette a été créée. Elle a été testée auprès de 60-70 consommateurs au mois de décembre 2021. Mmh. Et comme les retours étaient très très positifs, du coup, on a décidé de démarrer cette production-là, et qui a officiellement démarré au dernier Salon de l'agriculture à Paris en février 2022. Et donc aujourd'hui, cette confiture-là... continue. C'est une confiture donc, qu'on a voulu 100% bio, pour rester dans la démarche dans laquelle on est, qu'on a voulu avec un maximum d'ingrédients français. Donc on trouve bien sûr majoritairement les pommes de terre de l'exploitation. En second ingrédient, du sucre de betterave bio pour lequel on est dans le projet puisqu'on est producteur de betterave à sucre bio. Et puis du rhum de la Martinique, rhum agricole blanc de Martinique en bio, de la poudre de vanille bourbon de Madagascar et de la cannelle pour l'assaisonnement. Voilà.
Très bien. Alors c'est un bon produit d'appel, j'allais dire, parce que forcément ça interpelle, donc ça attire le consommateur. À quoi faut-il s'attendre? Ça a quel goût la confiture de pommes de terre?
Donc ce qui ressort à la dégustation de consommateurs, c'est ils retrouvent la poire. Ça leur rappelle donc la poire, ou la pomme, ou le coing, ou la crème de marron. Voilà les quatre grands axes qui sortent à la dégustation. Et avec une texture qui est, par contre, là, on va dire quasiment tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la texture de la crème de marron.
D'accord. Voilà. Très bien. Parfait pour tartiner ou manger sur une tranche de gâteau préparée avec vos farines. J'ai déjà des tas d'idées, les gourmands en auront aussi.
Donc oui, sur les utilisations de cette confiture-là, donc ça peut être effectivement simplement toasté à l'apéritif, toute seule.
Ça se mange aussi en version salée, j'allais dire. Est-ce que ça peut être du bon sucré salé?
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc effectivement, on peut jouer des accords sucré salé. Mm-hmm. Donc là, on va être bientôt sur les fêtes. Et donc, ça va très bien remplacer tout ce qui est chutney de figues, confit d'oignons, avec un foie gras. Vous allez pouvoir mettre cette confiture de pommes de terre. Elle va également accompagner les terrines de gibier, les terrines de foie de volaille, le fromage de chèvre, le fromage bleu. Et après, en pâtisserie, on peut très bien mettre un insert de cette confiture-là dans une madeleine, dans un muffin. Pourquoi pas sur des crêpes. Après, il faut laisser un peu son imagination après la dégustation. Ça peut permettre de se dire, tiens, ça matcherait peut-être bien avec tel plat. Et dernièrement, alors je ne l'ai pas personnellement testé, mais dernièrement, j'ai un consommateur qui m'a fait un très bon retour sur une association avec un toast sur lequel il avait mis donc, son toast, la confiture, et par-dessus, une petite rondelle de boudin noir chaud.
D'accord, voilà. Avis aux gourmands, il y a encore des tas de choses à inventer. Alors après de nous avoir donné l'eau à la bouche, on va vouloir savoir où trouver vos produits. Comme on reste en circuit court, quelque chose me dit que c'est pas loin de chez vous.
Donc bien évidemment sur notre exploitation, mais si on s'intéresse à la région chartraine, la confiture de pommes de terre est disponible à l'office du tourisme, à la maison du poisson, en centre-ville de Chartres. Dernièrement, un nouveau commerce Locali qui a ouvert à Bonville, donc direction route d'Orléans. Donc distribue nos confitures de pommes de terre et également nos farines. Et puis là, j'ai une touche pour commencer à travailler avec un magasin rue de la Pie, mais rien n'est concrétisé pour le moment, donc à voir. Sinon, également, pour ceux qui sont intéressés par du système drive, au drive sur le champ, qui est dans la zone d'activité jardin d'entreprise à Chartres.
Très bien. Merci beaucoup, David Aymar, pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture aussi au sein de votre exploitation ?
Donc, nos heures d'ouverture, oui, le jeudi de 18h à 20h, le vendredi de 18h à 20h également. On peut recevoir et puis après, on est sur le réseau Facebook, sur lequel il y a toutes nos coordonnées si des personnes veulent nous contacter et prendre un rendez-vous pour un autre horaire.
Très bien. Merci beaucoup. Bien sûr, les auditeurs retrouveront toutes ces coordonnées sur la page de l'émission Terre d'Eure-et-Loire sur laquelle ils pourront bien évidemment réécouter cette émission ainsi que les précédentes. Merci. Au revoir.
Merci.